Bonjour. Alors, la science-fiction a été à l'avant-garde du combat féministe avec des auteurs comme Octavia Butler, Joanna Russ, Ursula Le Guin ou en francophonie Elisabeth von Arburg, Esther Rochon, Joël Vintrebert ou du côté des hommes Robert Heinlein, Theodore Sturgeon ou John Varley. La place des femmes dans le genre a considérablement évolué depuis les pulps, mais la question reste d'une vive actualité. Le féminisme peut-il se dépasser le contexte idéologique dans lequel il a incubé et transformé notre regard sur l'humanité ou l'humanisme? Ça, c'est ce que dit le dépliant. Pour en discuter, nous avons donc Anne Larue, universitaire et chercheuse féminine, féministe française et romancière, Elisabeth von Arburg et Esther Rochon, grande dame de la science-fiction canadienne et figures emblématiques du féminisme d'outre-Atlantique, Florence Porcel, femme de web, femme de télé, auteure et candidate à la mission pour Mars, Jeanna Debats, romancière de science-fiction pour petits et grands, passionnariat du féminisme de l'imaginaire français, et Lionel Davoust, parce que nous ne sommes pas sexistes, que son féminisme ne fait aucun doute. C'est aussi un écrivain et un traducteur français. Et d'ailleurs, je vais commencer par te poser une question à toi. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi on parle quand on parle de genre ?
Fichtre. Eh bien, je ne pense pas, en fait. Quand il était question de rejoindre cette table ronde à laquelle j'ai grand plaisir à participer, ce dont il était question, c'était éventuellement parler de féminisme, et moi j'étais ravi de venir en parler. Et quand j'ai vu le titre, ça m'a un peu interloqué. Quand je vois le titre de la table ronde qui est « Le genre, un nouvel espace idéologique », il y a quelque chose qui me heurte là-dedans, parce que l'idéologie, pour moi, c'est quelque chose d'assez marqué. C'est une ligne qui dévie un peu de la norme. Pour moi, l'idéologie, c'est le libéralisme, c'est le marxisme, c'est des systèmes assez aboutis. Quand on parle de genre, et derrière, je pense qu'on parle simplement d'égalité entre les êtres humains, ça me choque un peu de voir ça désigné comme une idéologie. Pour moi, ça devrait plutôt être une évidence. Donc, définir le genre, je ne suis pas chercheur ni historien en la matière, donc je préfère éviter de donner une définition parce que je suis quasiment sûr de tomber à côté. Mais pour moi, il s'agit simplement, le cœur du thème et le cœur du débat, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être une évidence. Malheureusement, on a régulièrement la preuve que ça ne l'est pas. C'est simplement l'égalité entre les personnes, sans se baser sur des différences, comme des différences biologiques. Et il y a aussi derrière ça, pour moi aussi, la liberté des personnes à choisir qui elles veulent être. Que ce soit dans leur identité ou dans ce qu'elles cherchent à devenir. Ce n'est pas vraiment une définition, mais...
Anne, est-ce que tu voudrais essayer ?
Alors bon, on peut rappeler que le féminisme deuxième vague, c'était l'opposition stricte des hommes et des femmes. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Ça ne rend absolument pas compte de la réalité des choses. Basé sur le biologique, la différence des genres est une absurdité totale, sachant que beaucoup de gens naissent intergenres, intersexes, etc., et qu'il y a toutes les transformations possibles. On pense à la transidentité, hein, par exemple. Donc, je crois que la première chose à faire, c'est peut-être de passer à une sorte de féminisme troisième vague, où on sort de cette logique binaire, t'es un homme, t'es une femme, etc., sachant que cette logique binaire est complètement asymétrique, hein, évidemment, du fait que d'un côté, on a un modèle, l'homme blanc dominant, qui ne correspond à aucun homme réel, mais enfin c'est un modèle, et de l'autre, tout le reste, hein, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieux, les animaux, etc., etc. Donc finalement, cette espèce d'opposition binaire est fort asymétrique, définit pour moi un espace mental dans lequel on ne peut plus guère tellement fonctionner, et il est temps de passer à quelque chose d'effectivement d'un peu plus... que 100 000 genres s'épanouissent et qu'on cesse de cette opposition binaire héroïco-stupide basé sur la tradition patriarcale.
Justement, en parlant de patriarcat, Jeanne Debats, l'ASF, dont la modernité est née de la plume d'une femme, Marie Shelley, est-elle restée un patriarcat ?
Oui. Je n'ai rien à ajouter à ça.
L'une ou l'un d'entre vous veut-il l'intervenir ?
Non, mais attends. J'étais en train de mentir. Oui, effectivement, c'est resté un patriarcat. Il n'y a pas de raison que ça ne reste pas un patriarcat, puisque le monde est resté patriarcal.
Donc, je ne vois pas très bien comment l'ASF, qui prétend parler du monde tel qu'il est, pourrait avoir échappé au problème. Le fait est que le genre de la science-fiction est quand même plus ouvert vers ce que définissait Anne il y a 3 minutes, qui est de sortir de la binarité. Et ça fait très longtemps que le genre est sorti de la binarité. Varley, par exemple, il est dans totalement autre chose. Pour lui, tout est arrivé, on accepte tout. Quel que soit qui vous voulez être, Varley l'accepte et le montre. Donc, du point de vue du texte, il n'y a aucun problème. La SF est sortie depuis très longtemps du patriarcat. Le problème, c'est que du point de vue du vécu, que ce soit les écrivains et les écrivaines, nous ne sommes pas sortis du patriarcat parce que nous sommes des êtres vivants sur un monde patriarcal. Voilà.
Elisabeth, quel a été le rôle des femmes dans l'évolution de la SF, d'après toi ?
D'après moi, tu as cité Marie Shelley déjà, mais enfin, elle a été récupérée relativement tard. J'ai toujours senti, moi, une convergence, puisque c'est pour moi. Je ne veux pas parler pour les autres. Mais pour moi, il y a toujours eu une convergence entre la science-fiction et les femmes, le féminisme ou le féminin, parce qu'il y a justement cet aspect d'ouverture et de critique. Et les femmes dans le système patriarcal sont dans les marges, encore. Donc on a ce regard depuis les marges qui est pour moi le regard de la science-fiction. La science-fiction regarde le monde en biais, elle fait un pas de côté, enfin la science-fiction et les genres connexes, qui ont le même genre de codage, fait un pas de côté et regarde les choses en biais. Elle soulève la jupe du monde et regarde ce qu'il y a en dessous. Et ça, pour moi, c'est une position absolument essentielle pour n'importe qui, mais en particulier pour les femmes. Et pendant très très longtemps, j'ai beaucoup regretté l'idéologie carrément. Non, la science-fiction, c'est pour les gars. C'est pas pour les filles. Va lire des romances et fous-nous la paix dans notre petit carré de sable. Donc, c'est ça. Moi, je me suis moulée dans la science-fiction très, très aisément, même si je l'ai prise à un moment où elle était particulièrement testostérone city. Et j'ai failli en décrocher, justement, au moment où les femmes sont arrivées. Heureusement, elles sont arrivées. Heureusement, Le Guin est arrivé. Il y avait eu, bien sûr, Russ, il y avait eu Meryl, il y avait eu McCaffrey, il y avait eu Catherine Moore. Mais elles étaient elles-mêmes en transition. Mais à partir de la fin des années 60, là, oui, les femmes ont joué un rôle essentiel dans la science-fiction. Maintenant, quelquefois, on pourrait encore en douter aujourd'hui quand on regarde ce qui est traduit en France. Mais ça, c'est une autre histoire.
Esther Rochon, y a-t-il eu, d'après vous, une révolution du genre en SF, ne serait-ce qu'avec les utopies féministes et ce genre de choses ?
C'est possible. Je pense que beaucoup de choses pertinentes ont été dites. Un point sur lequel j'aimerais revenir, qui n'est peut-être pas complètement lié à votre question, c'est qui était la mère de Mary Shelley? Elle était une féministe, Mary Wollstonecraft. Et cela me touche d'autant plus profondément que ma mère, comme ma propre mère, comme scénariste de film, a été reconnue au Québec comme une pionnière des idées des femmes dans les années 1970 et 80. Et je pense qu'il y a quelque chose de lié. Quand on est dans un milieu familial de manière générale où l'égalité des hommes et des femmes ne fait absolument aucun doute, à ce moment-là, on peut décrocher un peu de cette problématique, au moins dans notre imaginaire, et ensuite coucher cela par écrit. Je me réfléchissais ce matin à la petite Malala Yousafzai qui vient de gagner le prix Nobel de la paix. Elle-même, je ne la verrais pas dans son combat très juste pour l'éducation des femmes, je ne la verrais pas écrire de la science-fiction, mais si jamais, par bonheur, elle a une fille, ça, je ne serais pas étonnée de la voir se lancer dans la littérature de l'imaginaire. C'est pure spéculation de ma part. J'ai l'impression qu'il y a une filiation très, très profonde de cette base de liberté, en somme, quand les aînés la conquièrent, alors à ce moment-là, les filles peuvent la revendiquer comme quelque chose de totalement naturel et qui coule de source.
Anne, la rue, est-il aujourd'hui possible d'aborder le genre sans parler de féminisme ?
Ouah, la question. Alors, le genre, tu veux dire le genre science-fiction ou...
Non.
Les gens. Ah ben non, évidemment non. Je sais pas, il y a des associations trans qui sont par exemple des associations trans féministes. C'est pas possible d'échapper aux féministes. C'est une méga civilisation comme le patriarcat finalement, qui est pas très vieux. Hein, ça a 6000 ans le patriarcat. C'est pas énorme hein, quand on y pense. C'est pas si vieux que ça. Hein. Mais ça s'est répandu à peu près partout. Et puis ceux qui n'étaient pas dans cette démarche là, c'est eux qui n'étaient pas dans cette démarche. Tout le monde a dit que ça n'existait pas. Donc voilà, c'est un problème de discours hein, surtout. Alors on ne peut pas donc échapper au genre, non. Et en science-fiction, je crois que c'est vraiment l'avenir de la science-fiction. Quand on dit science-fiction, on inclut le reste. Hein. On ne t'exclut absolument pas et on inclut la fantasy, on inclut le steampunk, on inclut tout ça. Disons que c'est un mot générique. Jeanne, tu as quelque chose à dire.
Alors tu viens de dire un truc un peu trop général pour moi. Avec lequel, à la marge, je suis d'accord. À savoir que le genre... est une question de la science-fiction, mais je ne dirais pas que ça sera la question de la science-fiction.
C'est la question pour moi.
C'est la question pour toi, d'accord.
Très hypothétique.
C'est la question pour moi aussi, mais je vois des tas d'auteurs, y compris féminins, pour qui ça n'est pas la question.
C'est leur droit.
C'est ce qui est absolument leur droit. Et il faut, de mon point de vue, la science-fiction doit être plurielle et traiter tous les problèmes qui agitent notre monde. Donc, par conséquent... évidemment le genre qui est un des courants puissants actuels, mais en faire le but de l'ASF, non, pas plus que de tout le reste, enfin, tu vois. Mais sur le fond, personnellement, dans mon œuvre, effectivement, ça va être un des grands trucs. Mais c'est pas le seul, voilà.
Mais justement, j'allais justement aborder la place du genre en SF, mais aussi en science. Qu'en pensez-vous, Florence ?
Eh ben, je ne suis pas scientifique, donc ça commence mal. Mais il se trouve que je travaille pour une émission scientifique qui s'appelle La Tête au Carré, et on essaye d'inviter des femmes scientifiques sur les plateaux. C'est pas toujours évident. On essaye de le faire. Après, ce qu'il y a, quand je discute avec des scientifiques femmes, c'est vrai que visiblement, il semble encore y avoir un problème de patriarcat, de problème de carrière, d'avancement. Elles doivent lutter plus que les hommes pour avancer, évidemment. Mais je crois que c'est un petit peu global à tous les métiers, sauf quand on est infirmière ou je sais pas, assistante maternelle.
Il y a des garçons que ça intéresse ?
Oui, mais les femmes n'ont pas de mal à évoluer dans ces milieux-là, contrairement aux sciences où c'est encore un peu compliqué, sauf dans les sciences dites de la vie. Bon, la biologie, ce genre de choses, elles sont un peu plus représentées. Voilà ce que je peux en dire au niveau des sciences, mais voilà, je ne suis pas moi-même scientifique, donc je ne fais que rapporter ce qu'on me rapporte.
J'ai vu passer un graphique il n'y a pas très longtemps qui montrait l'entrée des femmes dans les carrières scientifiques. Et il y avait un endroit où les effectifs étaient en baisse par rapport à avant, c'était dans ce qu'ils appelaient les sciences des computers. C'était en anglais, alors je ne sais pas trop bien comment on traduit ça. L'informatique, voilà. Et je trouve qu'il est très intéressant de voir disparaître les nanas de ce milieu-là, si on fait le lien avec la Gamergate, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, voilà. C'était mon passage troll.
Voilà. Tu veux intervenir, peut-être ? Non, le Gamergate est absolument consternant et scandaleux. Et je pense qu'il est aussi le... Est-ce que... Oui, j'allais dire, est-ce qu'il sera très... je vais essayer d'en faire un résumé rapide, mais en gros, le Gamergate est un espèce de mouvement qui a pris énormément d'ampleur sur les réseaux sociaux, qui prétend parler d'éthique dans la presse reliée aux jeux vidéo, et qui en réalité est une campagne qui avance à peine à visage couvert pour essayer de chasser le plus possible les femmes, mais aussi les minorités, tout ce qui n'est pas... très clairement hétérosexuel, etc., du milieu du jeu vidéo, parce qu'il y a une proportion de joueurs de la vieille école qui vivent très mal le fait que, finalement, le média puisse se diversifier, acquérir une certaine maturité et peut-être ne pas parler exclusivement qu'à leur fantasme d'ado vaguement prépubère et masturbateur. Pour le dire un peu comme ça. Donc le Gamergate est absolument consternant. J'entre pas dans le détail, mais en gros, pour vous dire le point auquel ça va, c'est-à-dire c'est quand même un mouvement entre guillemets qui prétend parler d'éthique dans le journalisme du jeu vidéo. Et là, récemment, donc c'est des gens qui menacent dans tous les sens les femmes qui pourraient éventuellement questionner la place et l'image des femmes dans le jeu vidéo, et qui là, leur dernier fait d'armes, donc je vous rappelle, hein, qui traite d'éthique dans le journalisme du jeu vidéo, qui a empêché en fait Anita Sarkisian, qui est une femme qui parle beaucoup de la place des femmes et de l'image des femmes à travers les loisirs numériques, qui allait faire une conférence à une université, et en gros elle a reçu des menaces en disant bah, si vous venez, vous faites votre conférence, vous allez voir la plus grande tuerie dans une université qu'on ait jamais vue aux États-Unis. Mais tout cela ne parle évidemment que d'éthique dans le journalisme du jeu vidéo, bien sûr. Donc non, c'est absolument scandaleux, et c'est l'image de je trouve ça tristement symptomatique d'à quel point un média qui est très jeune, hein, le jeu vidéo, on parle de quelque chose qui a à la louche 35 ans, et qui a grandi très très vite, peut-être trop vite, et qui est justement le symptôme d'une certaine classe de patriarcale, de personnes qui sont terrifiées et terriblement arc-boutés sur leur conception et qui ne supportent pas que ça puisse s'ouvrir et se diversifier. Je ne sais absolument pas où je venais là-dessus, c'était juste pour gueuler contre le Gamergate.
Oui, je peux peut-être... je voudrais rappeler quelque chose à propos du jeu vidéo, c'est peut-être un peu bête, mais qui c'est les joueurs de jeux vidéo ? Tout le monde croit que c'est des petits jeunes, des garçons, fiers de leurs skills, très habiles, etc. Et en réalité, le joueur de jeux vidéo type est une vieille dame de 80 qui achète un ordinateur rien que pour ça, et le jeu vidéo le plus joué au monde est le solitaire, le je sais pas quoi, c'est ça, le Mahjong, c'est ça le jeu vidéo. Et ça, ils ont découvert ça récemment, les gens qui travaillent en sociologie du jeu vidéo, ils se sont rendus compte que c'était pas tout ce qu'on croyait, le jeu vidéo, et qu'on avait là encore une espèce d'image patriarcale. Faut pas oublier que personne n'est obligé d'adhérer aux idées du patriarcat, même et surtout pas les hommes. C'est pas parce qu'on vous donne une image à la con de mec qu'il faut forcément lui ressembler, quoi. Tout le monde a le droit de ne pas ressembler à ça, c'est un droit humain imprescriptible.
Mais justement, quelle est la place de l'homme dans le féminisme et la question des genres ?
Tu parles des hommes patriarcalisés ou des hommes non patriarcalisés ?
Il y a les deux.
Il y a quatre catégories, disons, d'humains dans la façon binaire de considérer les genres. Hein. Il y a la femme patriarcalisée, donc vous voyez qui c'est, hein, la femme patriarcalisée. Bon, c'est pas peine de faire un détail, voilà. La femme non patriarcalisée, l'homme patriarcalisé, l'homme non patriarcalisé. Ça fait quatre catégories. Si vraiment on tient encore à ce vieux système de genre d'opposition, ça fait quatre. Donc l'homme patriarcalisé, je pense que bon, on va le laisser à la porte du festival. Je sais pas ce que vous en pensez.
On ne doit pas y en avoir beaucoup.
Il n'y a pas lourd, moins en moins.
Il faut quand même voir un truc, c'est que ça, Gamergate, ça a l'air de parler que des États-Unis, mais nous, on a les nôtres à la maison, hein, n'est-ce pas, Florence ?
Oui, alors, oui, j'ai eu le bonheur et le malheur de participer à une émission qui a fait un sujet sur le féminisme, enfin sur le sexisme chez les geeks, où nous avons effectivement interviewé une femme qui s'appelle Marlar et qui a fait un sujet merveilleux sur le sexisme chez les geeks, que je conseille vraiment de lire. C'est très très long, mais c'est édifiant. Et voilà, vraiment, ça devrait être d'utilité publique. Et je vous conseille vraiment d'aller le lire. Il est en ligne, normalement, sur Internet. Bon, après, le souci, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Marlar a visiblement pas aimé le montage qu'on a fait de son interview dans l'émission. Et elle s'est un petit peu retournée contre nous, alors que l'intégralité de son interview d'une heure est en ligne sur YouTube. Elle est toujours en ligne. Et donc, moi qui suis féministe, j'ai passé 3 mois à être harcelée en ligne par ces féministes. Donc, voilà, c'est une période de ma vie où je me suis battue contre les sexistes et contre les féministes. Mais donc, c'était un petit peu dommage.
Mais tout à fait sexiste.
C'était, oui, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais voilà, ça peut arriver aussi en France, effectivement.
À propos du Gamersgate et de ce genre de réaction violente, on a eu le même phénomène dans la science-fiction dans les années 80, je dirais, où on avait des... C'est ce qu'on peut appeler la panique de l'extinction. Et c'est de plus en plus fort parce que l'extinction est de plus en plus évidente. Et donc, on a des réactions de plus en plus violentes, mais de plus en plus, on espère, de moins en moins nombreuses, enfin. Mais elles sont plus violentes, elles gueulent plus fort, donc on les entend plus fort. Mais je veux espérer, aujourd'hui je suis d'humeur positive, d'habitude ça me déprime profondément, aujourd'hui j'essaie d'être positive, on veut espérer qu'une fois que tout ça sera éteindu, extinctionné, ce sera moins. Mais effectivement ça devient vraiment violent et dangereux.
Mais avec le genre, on parle aussi du genré. Et là c'était une question pour Jeanne de Batz qui écrit aussi pour la jeunesse. Alors, il y a une SF pour les filles et une SF pour les garçons ?
Non, enfin, pas chez moi. Je comprends pas bien ta question. Évidemment, sûrement, il y a des gens qui écrivent dans cette optique, mais enfin, je les lis pas. Donc, j'ai pas la moindre idée de ce qu'ils peuvent raconter, à part qu'ils ont des couvertures roses avec des paillettes ou bleues, et que du coup, je regarde même pas. En ce qui me concerne, moi, écrivain, je raconte des histoires dont les héros sont ou mâles ou femelles. Je vais essayer de trouver une façon de moduler l'éventail, mais en primaire, c'est un peu difficile d'aborder ces sujets-là sans se retrouver crucifié en place publique par les connards de la manif pour tous. Ça y est, c'est dit. Voilà. Mais j'ai un peu travaillé là-dessus dans Pixel Noir, mais ça reste très classique de mon point de vue dans ce travail-là. Il n'est pas révolutionnaire du tout. J'ai juste posé comme existant le fait qu'il y avait des homosexuels et qu'on pouvait être copains avec des homos sans qu'ils nous mettent la main au panier nécessairement. Voilà. Parce qu'en jeunesse, on peut guère aller plus loin, sauf à vouloir la crucifixion directe. Remarquez, c'est une crucifixion qui rapporte pas mal, parce que si je me rappelle bien, lorsque ce ministre, là j'ai oublié son nom, celui qui s'est intéressé à tous à poil, c'était qui ? C'était Copé ? C'était Copé, voilà. Il a quand même fait vendre le bouquin jusqu'à extinction.
20 000 exemplaires, a dit Sylvie Gracia, qui s'occupe du Rouergue. 20 000 exemplaires vendus d'un livre de jeunesse, d'un album de jeunesse. Excusez du peu.
Finalement, la crucifixion, c'est pas mal, je vais essayer.
Et vous, Esther, pensez-vous qu'il existe encore aujourd'hui une SF genrée ?
Je pense que il faudrait regarder ça avec délicatesse. De nouveau, je vais regarder ma famille, excusez-moi. Après, moi-même qui ai étudié les mathématiques, j'ai une maîtrise en mathématiques. Ma fille est en computer science. Elle travaille comme informaticienne depuis des années. Et aucun problème aux alentours. Même, il y a pas mal de femmes en mathématiques au Québec, je dirais. Ma petite fille, la fille de ma fille, elle est dans les princesses et les paillettes et le lavande et le rose. Et elle a 5 ans, 6 ans. Et je pense que c'est complètement de son âge d'adorer les fées. Et ça ne l'empêchera absolument pas, je pense, d'évoluer dans son imaginaire et dans sa vision des rôles. Je pense qu'il y a plus d'intelligence qu'on pense dans la littérature jeunesse qui s'adresse en lettres immenses aux petites filles. Et il y a quelque chose qui va plus loin. Ce n'est pas simpliste. Alors, je n'ai pas du tout cherché. J'ai encouragé ma petite fille dans ses lavandes et ses petites fleurs et ses papillons.
De toute façon, il n'est jamais bon d'aller contre directement. Et puis moi, j'ai mis mes jolies bottines roses en peau de genre pour venir vous voir. Donc, je pense que le rose, c'est joli. Et d'ailleurs, avant, c'était une couleur de mec. Il faut le savoir.
C'était la couleur des petits garçons. Ça venait du rouge. Le rouge étant une couleur virile. Le bleu étant plutôt la couleur de Marial, de la Sainte Vierge, etc., etc. Était donc réservé aux filles.
Cela étant, tu sais, je n'ai pas regardé effectivement ce qu'il y avait dans les bouquins roses parce que j'ai une répulsion quasi tripale pour ce, pour ce genre de bouquin. Voilà. Mais alors que je suis très pampi en fait dans la vraie vie, sur les bouquins, ça va pas.
Voilà, mais en littérature adulte, on peut faire par exemple une séparation entre l'ASF militariste, et la bitlite.
Ah oui, on peut, oui.
Par exemple. D'ailleurs, l'une de vous pourrait-elle répondre à cette question existentielle ? La bitlite serait-elle un féminisme patriarcal BDSM ?
Trop bien la question. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre.
Ah, parce que c'était à toi qu'elle était posée.
Non, 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 c'est à toi, c'est à toi.
Vas-y.
C'est quoi la question déjà ? Alors, donc, féminisme patriarcal BDSM, c'est ça ? La bitlite spécialement. Bah, est-ce que ce n'est pas plutôt le fait qu'on commence à vivre avec des animaux bizarres, y compris assez inquiétants, comme les vampires ?
C'est des femmes, c'est des héroïnes femmes qui se battent contre des monstres et qui baisent avec des monstres jusqu'à ce qu'elles tombent amoureuses. C'est un grand monstre qu'elles arrivent à amadouer, etc. Tu vois, c'est une espèce de...
Ce n'est jamais qu'une variation moderne du héros blessé, le monstre dont on tombe amoureuse.
C'est ce que j'allais dire.
Il y a femmes, il y a la présence des femmes et ce qu'on leur fait faire aussi. Voilà. Enfin, par exemple, moi je suis plutôt du côté cinéma, mais on me dit, ouais, mais Ripley dans Alien, c'est un super personnage féminin. Oui, enfin, c'est un personnage féminin. Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour préparer cette table ronde. Et il se trouve que la deuxième scène où Sigourney Weaver s'exprime, elle se fait traiter de petite putain. La quatrième, elle se fait traiter de salope. Elle est deuxième au générique alors qu'elle est le personnage principal. Et à la fin, elle est en tenue très très légère avec une petite culotte où on voit la moitié de ses fesses et un débardeur blanc à moitié transparent. Alors oui, c'est une femme. Mais enfin, si on pouvait éviter de la traiter de prostituée et de la voir à moitié à poil, ben ça m'aurait arrangé et ça n'aurait rien changé à l'histoire d'Alien. Ça n'aurait absolument rien changé qu'on la traite comme un être humain qu'on ne voit pas forcément à poil. Donc ça dépend. Féministe, Alien, oui, plus que des films où on ne verrait pas de femmes. Mais il y a encore du chemin à faire. Quoi. Bon, Alien, c'est vieux, mais...
Oui, bah c'est ça, mais, c'est ce que j'allais dire. Mais... À l'époque, il fallait peut-être la marquer comme femme pour justement mettre en relief, d'accord pour le deuxième au crédit, mais pour le reste, peut-être qu'il fallait la marquer davantage comme femme pour que ça fasse choc. C'est vieux quand même, Elion.
Oui, c'est vieux. Non, mais parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais il y a encore des exemples aujourd'hui.
Ah oui, oui.
Et de pire en pire, parce que maintenant...
Non, n'importe quel magazine, le mec, on voit la tête, la fille, on voit au moins jusque-là.
Mais même
là.
Dans la BD, j'ai vu l'autre dehors, jour, en baladant à la FNAC, j'ai vu une couverture de bande dessinée, je me suis dit, tiens, c'est de la BD érotique. Parce que la couverture, c'était une jeune femme avachie sur un siège avec un débardeur totalement transparent, en petite culotte, avec un doigt dans la bouche à moitié entrouverte. Et je me suis approchée, en fait, c'était de la science-fiction. Ben, j'ai juste tourné le dos à la BD et je me suis cassée, en fait. Bon, après, j'y suis retournée pour voir un petit peu ce qui se passait. Et effectivement, les femmes sont complètement à poil pendant toute la BD, les hommes aussi, mais tout est très, très bien caché. Tandis que les femmes, on les voit à poil, de pied en cap. Les hommes, non. Donc, c'est agaçant.
Il faudrait peut-être libérer le corps des hommes, en fait.
Mais oui, libérons le corps des hommes, je suis tout à fait d'accord. C'est du sexisme anti-homme, ça.
Et c'est du sexisme anti-femme qui ne voit pas les mecs à poil. Et ça, franchement, en plus, c'est dommage.
Ouais.
On nous frustre.
Bah, oui.
Absolument. Non, mais cela dit, j'en suis persuadée. On ne nous éduque pas visuellement au corps des hommes. Et c'est une vraie catastrophe, je pense, du point de vue de la sensualité. Voilà.
Et c'est très frustrant quand on est un mec et qu'on essaie de se faire un peu élégant et qu'en gros, on a juste le choix entre 3 vestes, 4 chemises
et
une couleur.
Et puis, votre lingerie est quand même carrément déprimante.
Mais la place dans le cinéma, il y a aussi beaucoup, même les scientifiques, la seule chose qui les intéresse dans le cinéma de science-fiction... avec des personnages féminins, c'est généralement des mères ou des futures mères.
Des mères, alors des mères de, des filles de, des épouses de, des fiancées de. En fait, il y a très très peu d'exemples du contraire. Il y a très peu d'exemples du contraire. Il y a Contact, qui est aussi un petit peu vieux, enfin quoique 95, ça va encore. Où effectivement, c'est une astrophysicienne, oui c'est ça, jouée par Jodie Foster. Mais il y a un très bon billet en ligne qui le décrit comme Ben, pour moi, c'était vraiment un personnage féminin fort. Et quand j'ai lu cet article, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'elle était en face d'un jury composé essentiellement de mecs, on ne la laissait pas parler. Il y avait encore des progrès à faire. Maintenant, dans des films qui sont moins SF, mais plus grand spectacle, comme des films catastrophes, je pense à Armageddon, par exemple. Liv Tyler, c'est la fille de Bruce Willis, c'est la petite amie de Ben Affleck. Enfin, il y a aucun personnage féminin fort. Enfin, ces derniers temps, j'en ai pas. À part peut-être dans Hunger Games, voilà, qui est plutôt pas mal. Et c'est très bien parce que c'est à destination des plus jeunes, enfin des jeunes, donc c'est plutôt pas mal comme exemple. Donc ça commence à bouger, mais on a encore du chemin à faire, quoi.
Dans Armageddon, t'as un deuxième personnage de femme, c'est la pilote.
Oui, effectivement.
Et elle est intéressante parce que...
Mais elle est quasiment effacée.
Alors, le seul moment où le film casse ce qu'il a mis en place avec ce personnage, c'est la toute fin où le russe... donne des coups, la vire pour donner des coups sur les composants qui ne marchent pas. Mais jusqu'à ce moment-là, qui est un moment sexiste particulièrement puissant, elle a un rôle quand même en filigrane très intéressant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il y en a une.
Mais sinon, bah, on parlait donc aussi de maternité. Pendant très longtemps, la création était refusée aux femmes sous prétexte que elle pouvait être mère et que c'était la création ultime. En tant et donc, les femmes ne pouvaient être démiurges. En tant qu'auteur de science-fiction, vous vous sentez mère de vos textes ou démiurge?
Mais est-ce qu'on pose la question aux auteurs de science-fiction masculins, savoir s'ils sont sans père?
S'ils se prennent pour
Parce
Dieu le père.
Parce qu'il faut deux personnes pour faire des enfants.
J'ai une réponse. Dans Main basse sur la ville, alors je ne sais plus de quand date ce film, Main basse sur la ville, à un moment, donc c'est un film politique, un immeuble s'est effondré, qui est responsable, etc. Et à un moment, il y a une femme qui dit, mais contre cela, que peut faire une mère? Et le mec lui répond, elle peut réfléchir. Je crois que tout est dit.
Et pour répondre à ta question, je suis la déesse de ma création et ça vient de s'éteindre.
Je pense que vu comment on traite les personnages, vu comment on traite une intrigue, qu'on la retourne dans tous les sens, qu'on fait des expériences parfois à la limite du justifiable sur les personnages, je pense qu'il est relativement dangereux de façon générale d'équivaloir la maternité ou la paternité avec la création littéraire.
Je suis assez d'accord avec Lionel. Et perso, j'ai jamais pu dire de mes livres que c'était mes bébés. J'ai horreur de ça. Mes bébés, là, ils sont 18 ans, ils sont en pôle JDR, ils font les cons. Mais c'est ceux-là hein, que j'ai eus. Mais ils ne sont pas sur les tables de librairie. Ça, c'est mon boulot. Un boulot que j'exerce avec passion. C'est l'expression de ce que je suis. C'est certainement pas les enfants. Quand j'écris, je me présente moi. Je ne suis pas en train de donner la vie à quoi que ce soit d'autre. C'est moi. Donc non, je ne suis pas mère, mais alors absolument pas.
Mais cette question impliquait sans doute le fait que toutes les femmes souhaitent devenir mère, ce qui n'est
non,
pas...
Non, c'est pas du tout ce que j'implique.
Bon, d'accord, ok.
Là, de ma part, c'était une question impossible. Aussi, hein. Non, mais c'est parce que justement, pendant très longtemps, c'était la réponse que donnait le patriarcat à la femme souhaitant être créatrice, que ce soit dans les arts plastiques ou dans l'écriture. Il y a d'ailleurs eu un texte de Nancy Huston qui est sur le journal de la création, où elle parlait justement de cette mère ou des murges. C'est pour ça que j'ai posé la question.
Oui, je pense que je répondrai ni l'un ni l'autre pour avoir... j'ai un regret, par contre, c'est que dans la littérature que nous faisons, moi-même, accompagnée d'autres écrivaines, je pense, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre en scène des mères et leur fille. J'avais tendance à avoir mon héroïne féminine active et forte, mais qui pouvait avoir des relations sexuelles variées, mais qui n'allait pas... ses parents étaient quelque part dans le brouillard et elle n'avait pas d'enfant, en somme. Quelqu'un qui agit. Mais par contre, est-ce que j'ai créé ou est-ce que j'ai enfanté ce personnage? Non, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une sensation... d'exploration ou de découverte. Pour moi, inventer des personnages, inventer des mondes, c'est plutôt apercevoir quelque chose et m'en rapprocher par l'imagination, en somme. Alors, ce n'est pas quelque chose que je construis de toutes pièces, c'est quelque chose que je vais découvrir. Et ça, c'est peut-être une approche qui est féminine. Qui sait?
Je dis ça du haut du fait que j'ai pas d'enfant et que je suis kid-free, mais il me semble globalement que élever un enfant, c'est lui donner les armes pour qu'il devienne ce qu'il souhaite être, du moins espérons-le à notre époque. Un bouquin, c'est pas du tout l'élever de façon à ce qu'il devienne ce qu'il veut qu'il devienne. C'est ce que nous, même s'il y a une part évidemment d'inconscient au fur et à mesure, mais le bouquin, au fur et à mesure, au résultat final, quand on l'envoie chez l'éditeur, on fait en sorte qu'il corresponde au maximum à l'idée qu'on en a. Normalement, c'est pas recommandé pour un enfant.
Mais justement, d'ailleurs, à ce moment-là, est-ce que vous vous sentez genré quand vous écrivez ?
Moi, je me sens pas genré du tout, jamais. C'est, voilà, je me sens super bien dans le corps que j'ai reçu à la naissance. Il se trouve que c'est celui d'une femme, mais je m'en fous en fait. Sauf quand on me renvoie dans la gueule que je suis une femme. Mm-hmm. Mais perso, non, je me sens pas genrée.
C'est peut-être une question de génération.
Bon, ça va, Elisabeth, t'es pas tellement plus.
Ben oui, plutôt la génération d'Esther que de la tienne. Il y a des moments où moi je me sens, ben, dans la mesure où c'est toujours une problématique, c'est toujours une question, c'est jamais une réponse, mais c'est toujours une question. Donc oui, la question du genre se pose toujours. Maintenant, est-ce que c'est être genré ? Je me surprends à l'être. Il faut quand même pas être totalement victime de ses propres illusions. J'appartiens effectivement à une génération qui a dû se battre contre elle-même, dont les membres ont dû se battre contre elles-mêmes pour justement remettre en question tout ce qu'on nous avait donné à la naissance. Tu parlais de la filiation. Bon, toi, tu as eu de la chance. Moi, j'ai eu moitié de la chance. Et il a fallu que je me débatte avec ça. Et je me débats encore.
Moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur des livres où l'héroïne changeait de sexe. Et du coup, ça m'est paru tellement évident. Merci, Elisabeth. Non, je parlais de toi.
Moi, je fais gaffe. J'ai conscience d'appartenir à la catégorie privilégiée, mâle, blanc, cis, hétéro. Donc, je fais gaffe quand, quand j'ai un personnage féminin. Je prends toujours un moment pour réfléchir en disant... Est-ce que je ne suis pas en train éventuellement de transmettre des clichés ou des trucs comme ça dont je ne pourrais pas avoir conscience parce que forcément j'appartiens à voilà, c'est comme ça, j'appartiens à la catégorie qui a plutôt plus de facilité que les autres. Donc je prends toujours un moment pour faire attention à mes personnages féminins, me dire est-ce que je ne suis pas en train d'en faire un cliché sur patte, est-ce que je lui donne autant de temps d'antenne qu'aux autres, voilà. Est-ce que je ne me sens genré pas particulièrement parce que je suis de ma perspective et qui ma perspective est forcément limitée comme celle de tout le monde. Je prends toujours un moment pour faire attention, le fameux check your privilege, m'assurer de ça. Cela dit, ça va, j'ai des, je me trouve dans des situations parfois qui sont assez surréalistes où dans ma fantaisie, par exemple, j'ai des femmes qui sont haut placées dans la hiérarchie militaire. Pour moi, c'est une évidence parce que ça fait partie d'un empire qui fait d'ailleurs pas que des trucs jolis à voir, mais qui se prête, qui pour le coup, socialement, est très avancé. Donc pour moi, c'est une évidence. Ben c'est des choses qui m'ont été relevées. Ah, mais vous avez un discours là derrière ? Enfin non, c'est juste que ce sont des... Voilà, c'est une société qui socialement se pose comme étant socialement avancée. Donc oui, on a des gens haut placés. Oui, on a des femmes qui font partie des forces d'élite. Et oui, on a des femmes qui font partie des forces d'élite qui se battent avec des épées longues de 2 mètres. Et oui, j'ai conscience que c'est un symbole phallique freudien. Et oui, il faut avoir conscience qu'en fantaisie, l'épée est un symbole phallique freudien. Je veux dire, Aragorn, dont l'épée est cassée, et quand il est reforgé, il peut devenir roi. Sérieusement.
Je voudrais quand même souligner que le vérifier vos privilèges, c'est quelque chose qu'on doit faire en tant qu'écrivain, tout le monde, c'est pas seulement...
Bon. J'allais justement vous demander, mesdames, avez-vous des difficultés, à votre tour, à créer des personnages masculins ?
Oui. J'ai l'impression que c'est facile, mais ensuite, c'est vrai que je me fais genrer. Je me rends compte que les gens me disent « Ah oui, tu fais dans le doux ». C'est pour ça que j'ai fait les chroniques infernales aussi un peu pour dire, regardez, je peux mettre des épices moi aussi. Mais même à ça, je ne sais pas en France, mais au Québec de ce temps-ci, il y a une mode de montrer le mâle qui se laissent aller dans ce qu'ils appellent en anglais « man's cave », une caverne pour hommes où il peut être poilu et puant et boire de la bière sans que les femmes ne se rendent compte. Et ça devient, on a l'impression que c'est une évidence qui était cachée de tout temps. Et j'ai jamais eu de héros masculin qui faisait ce genre de choses parce que j'ignorais que ce genre de comportement existait. Et donc, oui, malheureusement, je ne suis pas complètement entre les... capable de représenter de manière totalement réaliste les personnages masculins. Et j'essaye de les garder un peu estompés.
Eh bien, nous sommes à 10 minutes de la fin, donc je vais laisser la parole au public. L'un de vous aurait une... Oui, je vois déjà une main se lever.
Juste pour boucler sur la question de est-ce que c'est difficile de créer un personnage féminin ou... Moi, il y a juste pour boucler là-dessus, il y a la phrase dont j'arrive jamais à me rappeler. Mais c'est tout simplement le féminisme, c'est pour moi, et c'est vraiment la façon dont je le vois, et c'est comme ça que j'essaie d'écrire les femmes que j'ai dans mes bouquins. Le féminisme, c'est cette idée radicale comme quoi les femmes sont des gens comme les autres. Et pour moi, non, des gens comme les autres.
Malgré tout. Pardon.
Non, mais enfin, oui. Et pour moi, c'est juste là. C'est est-ce quand on écrit, enfin personnellement, quand j'écris une femme dans un bouquin, j'essaie simplement de lui faire en sorte qu'elle ait la dimension. Des fois, elle se plante. Des fois, elle est énervée. Enfin, c'est simplement. Ça me fait toujours penser aussi à Joss Whedon à qui on demandait pourquoi est-ce que vous écrivez des personnages féminins aussi forts. Et pour moi, tout est dit quand il répond parce que vous persistez à me poser cette question-là.
Mais par exemple, quand j'ai écrit La Vestale du Calix, on m'a reproché de n'avoir fait aucun personnage masculin sympathique. Alors j'ai répondu, et dans Blanche-Neige, vous trouvez qu'il y a des personnages féminins sympathiques ? Il y a la pauvre gourde qui bouffe n'importe quoi, que lui apporte n'importe qui. Il y a l'espèce d'horrible vieille femme atroce. C'est ça, les personnages ? Alors, on trouve normal quand c'est des personnages féminins atroces, mais pas les...
C'est questions. Ton droit, et je pense que la question sera réglée quand on n'aura plus à s'excuser du point de vue duquel on écrit.
Exactement.
Voilà. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir, il y a deux lieux communs de la science-fiction qui me paraissent intéressants pour explorer la question du genre. C'est les extraterrestres et les intelligences artificielles, parce que là, pour le coup, on est dans quelque chose qui dépasse la question du sexe de naissance tel qu'on la conçoit, nous, en tant que mammifères. Est-ce que c'est des questions sur lesquelles vous vous êtes arrêté ?
Oui. Personnellement, oui. En tant que lectrice, je voudrais signaler un bouquin de... mon Dieu, j'ai un trou. Ça s'appelle W.W. Robert, notre Canadien, là. Ah bah alors, écoutez, vraiment, ça s'appelle W.W. Vous avez qu'à googler W.W. et ce sera bon. Alors, sinon, dans mon dernier bouquin, je me suis rendu compte que j'avais une intelligence artificielle qui imprintait sur un personnage féminin. Et donc, elle devenait féminine. Mais ce n'est pas forcément une solution, mais je me suis posé la question, effectivement.
Beaucoup d'intelligences artificielles sont devenues féminines, d'ailleurs. Il y a très peu d'intelligences artificielles masculines en SF. Sauf Hal, sauf Mike. Oui, mais c'est une... Voilà. Tu voulais poser une question, Georges ?
Alors,
ah non, les remarques, non, on parle de questions.
As-tu des questions ? Non.
Alors, s'il te plaît, Marie.
Non, mais attends, il y a Marie qui pose une question.
Il y a Marie qui pose une question. Genre.
Elle joue le jeu, donc elle joue. Voilà.
On parlera après. Oui, alors, c'est pas pour faire de la provocation, mais quelque part, pour les petites filles, les histoires avec des princesses, des fées... Est-ce que ce n'est pas une ouverture justement vers l'imaginaire ? Moi, je dirais, j'ai commencé là et je lis les SF militaires et des trucs de baston, tout ça. Et
j'aime toujours les paillettes. On n'a pas dit le contraire.
Je ne sais pas, c'est quand même une opération marketing hein, de séparer les filles et les garçons. Ça fait double chose à vendre. Alors, est-ce que vraiment ça ouvre l'imaginaire, les opérations marketing ? C'est la question reste entière. Ça peut arriver. Hein,
Moi, quand j'étais petite, je voulais être la princesse Leia. C'était une princesse, mais qu'on avait dans le coffre quand même. Donc bon, il y a un juste milieu à trouver, je pense.
Je viens de penser que j'avais fait un extraterrestre qui était un extraterrestre féminin. Et alors, bizarrement, on parlait de symboles freudiens pas sérieux. Bizarrement, c'était un trou noir.
Moi, j'ai des extraterrestres dans Tyrannaël, c'est à peu près le seul endroit où j'ai des extraterrestres, et ils sont féminins, mais on ne le découvre qu'à la fin.
Alors que là, par exemple, tout à l'heure, il y avait une démonstration sur un robot. Le robot incarne le neutre, l'universel et l'humanisme masculin, tel que le patriarcat continue à nous le véhiculer. Ils n'ont pas eu l'idée de le mettre en autre chose qu'en homme, hein, ce robot. J'ai vu ça en passant. Hein.
Merci, bonjour. Mais du coup, ça m'amène à poser la question, pourquoi être toujours obligé quand on crée des univers qui sont censés être un peu détachés des formes sociales que nous, on connaît, et donc aussi des formes biologiques que nous, on connaît, pourquoi, dans la littérature, on retrouve tout le temps ce besoin de cette dichotomie à la fois sexuée et sexuelle, quoi. Pourquoi est-ce que les auteurs et les auteurs n'arrive souvent pas à nous proposer quelque chose d'autre, quoi. Une alternative, pourquoi on est figé là-dessus ?
Alors, ça dépend des auteurs, et il y a quand même pas mal de science-fiction qui, pour moi, interrogent la chose. Je pense que on est toujours lié au référentiel de la société dans laquelle on écrit, même quand on écrit l'imaginaire. Parce que à partir du moment où on va présenter quelque chose qui est hors de la norme telle qu'on la connaît au moment où on écrit, le lecteur qui va prendre le livre, ça va attirer son attention sur ça. Et après, tout se pose la question de l'histoire qu'on écrit. C'est compliqué de... parfois, l'histoire qu'on va traiter ne va pas forcément traiter de ces questions-là. Et ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a pas envie de traiter dans ce livre-là. Donc, c'est toujours un exercice d'équilibre difficile entre le fait d'essayer de présenter des choses qui vont effectivement briser les moules, parce qu'au bout d'un moment ça suffit, d'essayer de présenter des choses qui sont différentes, qui vont essayer de présenter des images qui vont sortir un petit peu de la norme. Mais si c'est pas l'histoire qu'on raconte, ça va être un peu compliqué. Donc il y a tout un équilibre à trouver, me semble-t-il. Cela dit, la SF et la fantasy parlent beaucoup de ça. Moi, je parlais tout à l'heure du fait... Oui. Mon histoire n'est pas du tout le fait je parle pas du tout de l'ascension des femmes dans la hiérarchie militaire. C'est une donnée de l'univers. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on m'a signalé.
Il y a aussi un seuil de tolérance à la différence, enfin, et au nouveau, chez le lecteur. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème d'équilibre et de délicatesse. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Moi, je vais rajouter un truc. Il y a aussi qu'on est con et qu'on manque d'imagination. Il faut quand même le voir comme ça aussi. Hein.
Une dernière question dans la salle.
Alors, je voudrais revenir sur ce que disait la personne de France Inter tout à l'heure à propos d'Alien. Vous disiez qu'à la fin, effectivement, on n'avait plus qu'une femme en t-shirt transparent et en sous-vêtements. Je pense pas que ce soit uniquement une question de machisme. Je pense que c'est aussi une question de sexe, tout simplement, parce que ça fait vendre et qu'il fallait un personnage qui soit sexy.
Mais c'est bien ça le problème. C'est qu'une femme à poil ne devrait plus faire vendre. Voilà, et on en est très, 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 très,
c'est
très
totalement loin, patriarcal. Hein.
Pour le coup, oui, mais c'est plus un problème je dirais de genre uniquement, c'est également un problème de commerce, puisque le sexe fait vendre, tout simplement.
Ben oui, voilà. C'est tout le problème de notre société.
Bon, ben on a... Je crois que tout a été dit, ou presque.
Bisous.
Alors je vais vous remercier à tous d'être venus au rendez-vous. Merci à vous de nous avoir écoutés, et bonne suite.